Vous êtes sur RTL. Pascal Pro sur RTL.
Tous les journalistes de France le savent, ils sont pris à partie par leurs amis dans les dîners depuis toujours sur le thème « Vous racontez n'importe quoi ». Et plus grave, c'est vous qui faites l'opinion. Voilà ce que tous les journalistes de France entendent depuis la nuit des temps. Patrick est avec nous. Patrick est commercial. Quel regard vous portez sur les médias ?
Les médias sont quand même assez politisés.
Fichtre. Ils sont politisés de quel côté ?
Ça dépend du média sur lequel vous tournez.
Ah bon ? Si vous prenez... Mais alors sur RTL, par exemple, vous trouvez qu'on est à droite, à gauche, au centre ?
Moi, ce que j'aime en vous, c'est que vous êtes un peu franc et direct. Et c'est ce qui me plaît. Je vous suis assez, pas que sur RTL, ailleurs.
Mais je parle d'RTL, je parle de moi. Vous trouvez que, par exemple, RTL est une station engagée politiquement ?
Non, pas spécialement. Mais vous avez l'engagement politique et puis vous avez la véracité de ce qui est fait ou pas. Et je trouve que...
Mais alors, qui est engagé politiquement, selon vous, dans les médias ?
Dans les médias, vous avez certains journalistes qui sont quand même engagés.
Oui, mais ça, c'est autre chose. Mais est-ce que vous trouvez, par exemple, que le service... Voilà. Vous trouvez que France Inter est engagé, par exemple ?
Bah oui, vous le savez. Donc,
Je ne le sais pas, moi, je vous pose la question. Alors, comme en plus, un des concurrents d'RTL, on va peut-être pas s'étendre sur eux.
Non, je ne ferai pas du tout de pub sur eux. Vous m'avez posé une question, je vous réponds. France Inter, oui, c'est quand même avec des données publiques et ce qu'ils racontent, ils influencent les gens qui les écoutent et ça, c'est dangereux. D'ailleurs, on a toujours dit qu'il y avait trois pouvoirs, l'exécutif, le législatif et les médias. Bon, maintenant, il y en a un quatrième, ce sont les réseaux sociaux. Donc, il faut faire quand même attention de ce que l'on peut annoncer et surtout vérifier l'information. Et souvent, vu Internet, les médias n'ont pas toujours le temps d'aller vérifier l'information.
Mais ce qui est intéressant, Patrick, c'est les exemples concrets. Sur quel sujet ces derniers mois ou ces dernières années ?
La police, par exemple.
Vous trouvez, par exemple, que les médias ont influencé l'opinion publique sur la police ?
Oui, quand même. Hein. Quand on voit ce que prennent les pauvres policiers, il n'y a pas tellement d'empathie du côté des médias. Mais à l'inverse, on s'est monté faire une maison ou un château, à l'inverse. Hein.
Mais est-ce que vous pensez que ça influence l'avis des Français sur leur police ? C'est ça la vraie question.
Oui, mais ça peut les influencer à travers des images. On voit juste une partie de ce qui se passe et on va dire la police est comme ça, comme ça, comme ça. L'image peut influencer l'opinion. Mais il faut l'avoir de A à Z, il faut tout voir, il faut tout écouter, tout savoir.
Donc vous êtes méfiant, vous ?
Assez, oui. Assez. Et je pense que beaucoup de gens le deviennent de plus en plus.
Mais ce qui est intéressant quand même, c'est qu'à la question, par exemple, vous êtes là sur RTL, et c'est intéressant parler du rapport de l'auditeur avec son média, en l'occurrence la radio RTL, vous dites vous-même une réalité, en fait. Vous dites, bah oui, RTL, c'est pas une station engagée politiquement, parce que c'est une réalité. Alors après, il y a forcément des journalistes qui ont des sensibilités différentes dans la rédaction, bien évidemment. Mais en aucun cas, vous ne verrez une ligne éditoriale politique de la station pour tel candidat ou pour telle option politique.
Non, je n'ai pas dit sur tel, mais il y a une façon de présenter les choses qui peuvent être différentes. On ne va pas le dire ouvertement, on va prendre un peu un chemin détourné pour influencer, pour faire comprendre. On ne peut pas citer... Mais RTL a plutôt essaie d'avoir au maximum une neutralité.
Exactement. Vous avez parfaitement raison.
Je peux vous dire honnêtement, j'écoute beaucoup plus RTL parce que je roule que d'autres stations dont je ne citerai pas le nom. Et vous particulièrement. Voilà.
Alors, moi, c'est encore différent parce que c'est une émission particulière que les auditeurs ont la parole, où on peut admettre que l'animateur parfois s'engage. Donc, il n'est pas neutre, peut-être. Mais en revanche, il est peut-être aussi imprévisible dans ses choix de non-neutralité. Il n'est pas forcément à droite ou à gauche. Simplement, il peut s'engager dans les débats.
Tout à fait.
Ben merci Patrick de ce premier témoignage. Vous allez rester avec nous. Arnould, bonjour. Arnould, oui, quel rapport vous avez avec les médias ?
Alors moi, j'ai sincèrement de très bons rapports. Je suis toujours étonné et même à la limite effrayé de voir qu'un Français sur deux ne croit plus en leurs médias ou pense que les médias leur mentent. Parce que d'une part, on est quand même d'une génération où on n'a jamais été autant informé qu'aujourd'hui. Avec les chaînes info, avec tous les médias qu'il y a, on a une information qui déborde de partout. Donc on ne peut pas dire que les médias nous cachent quelque chose. Au contraire, on est surinformé aujourd'hui par rapport il y a une dizaine d'années, ou une vingtaine, une trentaine d'années. Donc non, moi je ne pense pas que les médias, que ce soit la radio, la télévisée, ont de manière très appuyée des sensibilités politiques, en tout cas qu'ils ont une ligne éditorialiste engagée. C'est vrai pour les journaux, prenez les journaux politiques, Le Figaro, L'Humanité, on sait très bien de quel bord elles sont, où sont ces journaux. Mais non, moi j'ai confiance en mes médias, et je pense que vous, Pascal Praud, quand vous donnez une information au niveau des RTL, ben c'est une information que vous avez vérifiée. Donc si vous l'avez vérifiée, c'est qu'elle est vraie. Alors, bien sûr, tout le monde peut se tromper, mais je pense que tous les journalistes, s'ils font bien leur métier, vérifient l'information qu'ils donnent à l'antenne et que cette information est vraie. Et aujourd'hui, on est dans un monde de défiance où on ne croit plus personne, on ne croit plus à l'autorité, plus aux médias, plus aux politiques. Tout le monde nous ment, c'est la théorie du complot. Donc, voilà, on est dans un système qui est quand même malsain, très malsain.
Non, mais vous avez bien résumé, Arnould, et c'est vrai que pour la rédaction d'RTL, toutes les informations qui passent à l'antenne ont été vérifiées. Il y a des informations d'ailleurs qui réclament des vérifications parfois plus longues. C'est le cas du service police-justice. Et très souvent, RTL ne reprend pas une information d'un autre média tant que le journaliste qui suit cette affaire n'a pas vérifié, n'a pas passé les coups de fil, n'est pas lui-même allé chercher cette information. Il peut lui arriver de dire à ce moment-là, selon Le Monde ou Le Figaro, mais très rarement cette information passe sans qu'elle ait été vérifiée. Merci à Arnould. C'est aussi la chance d'être dans une grande maison, d'être dans une grande rédaction où effectivement les gens sont formés, les gens ont appris cette rigueur. C'est vrai aussi que certains jeunes médias parfois, ou même dans un média tout à fait particulier qui est Twitter, parce que Twitter est un média, n'a pas évidemment cette exigence de vérification. Et c'est pourquoi les médias traditionnels ont peut-être un avenir devant eux. À tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
La musique de la Grande Vadrouille, si vous voulez rendre hommage à Louis de Funès. Hier, on parlait de Sardou. C'est vrai que ça, de temps en temps, de parler, soit pour un anniversaire, soit pour quelqu'un qui est décédé, nous permet un peu de sortir de cette actualité, disons-le, qui est un peu répétitive. Laurent
bonjour
Tessier, bonjour.
Pascal, bonjour à tous. Faites-vous confiance aux médias? Vous réagissez à cette question depuis le début de l'émission.
Je vous crois, je suis les médias, mais je peux y avoir et à manger quand même.
Je suis toujours étonné et même à la limite effrayé de voir qu'un Français sur deux ne croit plus en leurs médias ou pense que les médias leur mentent.
Selon le baromètre annuel Kantar pour le quotidien La Croix, 52% des Français jugent que la radio diffuse des nouvelles fidèles à la réalité devant les journaux, la télévision et Internet. Alors qu'en pensez-vous? Zéro confiance, écrit Kylian sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. Vous êtes une source de stress et d'anxiété, rajoute José. On en prend pour notre grade. Ma confiance est limitée, nous dit Axel. Le problème, l'encérique, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, beaucoup de gens se prennent pour des reporters et diffusent n'importe quoi. Je ne compte plus les sites de fake news. Marre des journalistes qui se prennent pour des scientifiques et des critiques qui n'étonnent pas Thierry. Pour certains, si on ne leur donne pas ce qu'ils attendent, ce qu'ils veulent entendre, c'est de la mauvaise information. Triste époque avec sur Internet des soi-disant spécialistes qui détiennent la vérité sur tout. Heureusement que les médias traditionnels sont là, écrit Sophie, pour vérifier les informations, décrypter, nous décrire le monde. Et ça critique les médias, conclut Fred, mais pourtant, les gens écoutent et commentent.
Et ils commentent et ils continuent de commenter. Par exemple, nous sommes avec Benoît. Bonjour Benoît, vous habitez Guingamp.
Oui, bonjour.
Dans les Côtes d'Armor. Bonjour, bonjour.
Exactement. Alors, j'ai beaucoup aimé tout ce qu'a dit Arnould juste avant. Mais je suis pas d'accord avec lui. D'ailleurs, je n'ai pas la peine de dire à moitié. C'est qu'en fait, je pense qu'il y a de très bons journalistes en France. Il y a de très bons journalistes sur les chaînes info. Il y a de très bons journalistes un peu partout. Malheureusement, l'exemple que je donnais tout à l'heure, sans citer de chaîne télévisée, par exemple, si on va sur une chaîne 57, on va entendre un discours. Si on va sur une chaîne 58, sur le même sujet, on va entendre un autre discours. Et tout ça tout ça vient certainement d'une interprétation différente des mots. Je ne dis pas que le journaliste a une interprétation différente, je dis juste que les gens qui regardent, qui écoutent ou qui lisent ont une interprétation différente. Et finalement, c'est ce qui amène les gens aujourd'hui, et moi personnellement, puisque depuis, ça fait maintenant un an que je ne regarde plus du tout la télévision, mais du tout. Alors peut-être que je vais devenir idiot ou abruti à force de ne pas regarder la télé.
Non, je vous assure, non, on peut très bien vivre sans télé.
Je pense, oui. Mais finalement, je me demande, est-ce que les gens qui regardent à longueur de journée ou qui regardent pendant une heure ou deux heures les chaînes d'information, sans vouloir les citer, bien sûr, est-ce que finalement, eux ne deviennent pas un peu plus, peut-être, bêtes? C'est pas le mot que j'ai envie d'utiliser.
Personne ne regarde des heures. Hein. Les gens, ils picorent souvent sur les chaînes d'info. Ils restent 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, et puis ils vont faire leur course ailleurs, si j'ose dire.
Ils vont faire leur course ailleurs, mais ce qui fait que ils vont avoir des informations et des interprétations différentes en fonction de la manière dont c'est dit. Et le poids des mots, il est hyper important. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens, une personne qui va regarder pendant une semaine, on va dire 5 minutes une chaîne info, 5 minutes une autre chaîne info dans la même journée, va interpréter les choses
différemment. C'est souvent les mêmes. Je vous assure, l'éditorial est souvent le même. Moi, ce qui me frappe, voyez-vous, qui est souvent... c'est que sur les médias dits traditionnels, vous avez souvent un traitement de l'information qui est comparable, souvent.
Qui est comparable, mais les journalistes n'utilisent pas...
Et c'est normal d'ailleurs, parce que les journalistes sortent des mêmes écoles, donc...
Oui, d'autant plus...
Et même parfois font... comment dire, comme les footballeurs changent de maison et vont dans l'équipe d'en face.
Bien sûr. Et là où je voulais justement vous poser la question, c'est que j'en entends parler depuis le début de l'émission, depuis 13 heures, ce mot-là qui revient souvent, c'est les réseaux sociaux. Mmh. Alors, est-ce que les réseaux sociaux n'ont pas aujourd'hui pris une place importante dans l'information et que forcément, dans ces réseaux sociaux-là, il y a, comme le disait le premier auditeur, à boire et à manger, et surtout à boire plus qu'à manger. Et finalement, bah, ça crée une défiance envers l'information, envers les chaînes d'information, envers les médias en général. Donc la question, je me la pose, et c'est celle-là qui m'intéresse finalement. Les réseaux sociaux ont-ils pris la place du média traditionnel pour devenir un média d'information qui va raconter tout et n'importe quoi en quelques minutes, et ça déferle, et ça va tellement vite qu'on n'arrive pas à suivre, et finalement
les gens sont perdus. Non mais Twitter est un média. Il y a discussion d'ailleurs, parce que tout le monde ne pense pas que Twitter soit un média. Moi, j'ai le sentiment que Twitter est un média, effectivement, avec... alors, c'est un média qui n'est pas contrôlé, c'est un média qui, effectivement, est multiforme, mais c'est une manière de faire entendre, à travers des tweets, des gens qu'on n'entendait pas dans les médias traditionnels avant, voilà.
Parce qu'on en retrouve sur Facebook,
et donc ça a une influence
aujourd'hui sur des réseaux sociaux comme TikTok qui sont tout nouveaux. Mmh. Donc finalement, la question, est-ce que ces médias-là, entre guillemets, je dis bien, est-ce que ces médias, le média Internet, a été pris en compte dans ce sondage? Et est-ce que c'est vraiment ce qui fait qu'aujourd'hui, les personnes n'ont plus confiance en médias? Justement, je pose la question au 3210, comme le dirait Laurent Gérard.
Bon, bah, écoutez, bonne question. Merci en tout cas, Benoît.
Vous,
Véronique est là. Véronique qui habite Le Mans, pas très loin de Guingamp. Oui. Bonjour Véronique. Quoi, il y a 250-300 kilomètres quand même. Hein.
Bon. Oui,
mais disons que c'est dans l'Ouest.
Voilà, c'est dans l'Ouest, on va dire ça. Oui, oui. Non, moi je fais... Moi, enfin, médias, comme disait l'auditeur d'avant, là, tout ce qui est réseau, etc. Alors ça, je fais absolument pas confiance.
Oui, ça vous a raison, parce que c'est pas organisé.
Ouais. Oui, voilà,
c'est,
je regarde,
c'est une caisse de résonance, Twitter, mais c'est pas un média organisé.
Voilà. Alors, ça permet que les gens, effectivement, échangent, s'écharpent même, donc ça les occupe. Mais par contre, c'est vrai que les médias traditionnels, je pense, sont moins neutres qu'avant. Je pense qu'ils sont quand même...
Qu'avant, déjà, sous De Gaulle, vous pensez que c'était plus neutre?
Oui.
Quand Alain Perfit venait annoncer à Léon Zitrone la rédaction en chef du journal qu'il allait présenter? C'était verrouillé dans les années 60. Parler à Alain Duhamel, qui est un de nos grands anciens, c'était verrouillé l'information à la télévision.
Alors, c'était verrouillé, mais on y diffusait moins de fausses informations comme on peut entendre maintenant. Aujourd'hui, on a le problème qu'effectivement, on a des médias, alors qu'ils sont peut-être moins verrouillés, mais qui sont quand même influencés par le fait qu'il faut faire du buzz, et puis qu'on nous a dit attention, faut pas affoler la population pour ci, pour ça, donc on va pas forcément tout dire. Et puis, on a à côté les réseaux qui nous racontent tout et n'importe quoi, ce qui fait qu'il y a une défiance parce que des fois il y a tellement de je dirais d'écart entre ce que racontent les réseaux et ce qu'on peut lire sur les journaux ou voir à la télé, que du coup les gens ne savent plus qui croire. Donc ça m'étonne pas qu'il y ait autant de défiance au niveau effectivement de, et puis on est dans une société où tout est régi par l'argent, tout est, donc on croit plus en rien, on se dit bon voilà, celui-là on lui a donné tant, il dit ça, c'est aussi le problème de notre société aujourd'hui, où on s'aperçoit que même au niveau politique tout est pourri par l'argent.
Bah, donc, on marque une pause et vous continuez, parce que ce qui m'intéresse toujours dans ces discussions, c'est les exemples, Véronique. Quelle est la dernière information, par exemple, que vous avez trouvée maltraitée par une chaîne ou par un ensemble de médias? Ou quelle est l'information ces dernières semaines sur lesquelles vous avez eu des réticences, une méfiance, et vous trouvez que ce n'est pas bien relaté? On réfléchit deux secondes, je vous interroge, la pub.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Véronique est avec nous. Véronique, quelle est les dernières semaines, l'information que vous avez trouvée maltraitée?
Alors, c'est pas forcément maltraité, mais on peut avoir des doutes. Par exemple, les nombres de personnes décédées du Covid. On entend effectivement la télé, etc. Il y a eu tant de personnes, tant de pourcentages de gens. Et à côté de ça, même si on fait, si on ne veut pas le prendre en compte, on voit sur les réseaux, oui, mon grand-père est mort, machin et tout, c'était pas le Covid, et sur le papier, il y avait écrit mort du Covid, donc j'ai voulu, et je leur ai dit qu'il fallait pas mettre ça, etc. Même si on ne veut pas le prendre en compte, on le voit. On se dit, tiens, c'est bizarre.
Non, mais c'est un excellent exemple. C'est un excellent exemple,
voilà.
Véronique. Parce qu'en fait, c'est la différence entre les gens qui sont morts du Covid et les gens qui sont morts avec le Covid. Et sans doute que beaucoup de gens sont morts en attrapant le Covid, pourquoi pas dans leurs derniers jours, mais ils avaient avant, effectivement, ce qu'on appelle des comorbidités, une maladie longue, etc. Ça, c'est un excellent exemple. Et on ne sait pas, mais là, je trouve que journalistiquement, c'est très dur, parce que c'est pas nous les responsables dans l'exemple que vous citez.
Non,
c'est-à-dire, c'est l'administration, en l'occurrence sanitaire, médicale, qui tamponne telle personne. Et évidemment, pour les journalistes, c'est très difficile d'aller dans les hôpitaux pour vérifier chaque mort. Très bon exemple, Véronique.
Parce que c'est vrai que voilà, on dit, le média, lui, on lui a donné cette information, il a transmis.
Oui.
À côté, on a d'autres gens qui nous disent, ah oui, mais non, moi, mon grand-père, c'est pas le Covid, ça a été écrit le Covid. Alors
c'est
qu'avant, quand on n'avait pas ces réseaux-là, on faisait confiance.
C'est vrai, vous n'avez pas. Alors vraiment, formidable exemple, Véronique.
Donc là, aujourd'hui, on se dit, bon, qui croire? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Donc, on est dans une société de méfiance où tout le monde... Alors, voilà, il y en a dit, ouais, on nous raconte n'importe quoi, on part sur les théories qu'il faut éliminer une partie de la population parce que... Voilà, on part dans des extrêmes.
Oui, parce qu'il y a du complotisme sur le sujet, par exemple, que vous citez. Certains voient dans cette volonté de dire que telle personne est morte du Covid, une justification des restrictions très rudes qui sont mises en place par le gouvernement. Donc on entre effectivement dans un schéma complotiste.
Et il y en a disent, oui, de toute façon, ils veulent éliminer une partie de la population, on est trop nombreux, donc comme
oui,
ça,
c'est facile. Vous connaissez des gens qui disent ça?
Mais on entend, oui, des jeunes qui refont le monde à 20 ans.
En tout cas, jamais il ne faut éliminer les Véroniques. Ça, Véronique, il faut les laisser, les Véroniques. Même si aujourd'hui, elles sont un peu moins présentes dans la société française. Il y a moins de Véroniques qui naissent. Mais autrement, les Véroniques, il faut les garder. Il faut les choyer.
Bah,
vous êtes d'accord?
Notre franc-parler, oui.
Ah oui, parce que les Véroniques ont un franc-parler.
Ah oui, c'est clair.
Bon, puisque vous parliez tout à l'heure de l'information dans les années 60, Greg Caranoni a retrouvé une petite bande où on voit Alain Perfit, ministre de l'information quand même. On est en les années 60, qui vient annoncer à Léon Zitrone la nouvelle mouture du journal Le Soir. Écoutez.
Nous avons demandé au ministre de l'Information, à M. Alain Perfit, de venir inaugurer cette nouvelle formule dont il a pris lui-même l'initiative. Monsieur le ministre, je voudrais vous demander d'expliquer aux téléspectateurs les raisons pour lesquelles vous avez provoqué cette transformation dans le journal.
D'abord parce que toutes les formules s'usent. Si on ne veut pas ennuyer, il faut se renouveler. C'est pourquoi le présentateur sera transformé en une sorte de meneur de jeu qui devra s'effacer pour laisser la place soit aux images, soit aux meilleurs spécialistes d'une question ou à des témoins qui parleront de ce qu'ils ont vu eux-mêmes.
Soit aux auditeurs. Parce que c'est très moderne ce que dit Perfit. Ce qui est moins moderne, c'est quand même la déférence de Léon Zitrone qui dit « Écoutez, monsieur le ministre, est-ce que je peux vous poser une question ?» Bon, voilà.
On a fait du chemin.
On a fait du chemin. Bon, ben merci Véronique. On vous appelle Véro ?
Et oui, bien sûr.
Bah, merci beaucoup, Véronique. Merci. À 13h25, on parle des médias. On est avec Jean. Jean qui habite Lyon. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous écoutez notre conversation depuis 13h05.
Oui, tout à fait. Bah, en fait, ça reflète un peu ma pensée. Je trouve, personnellement, qu'il y a une trop grande collusion des médias et du pouvoir. Mais du pouvoir, quel qu'il soit. Bon, remarquez, c'est pas compliqué. Depuis 30 ans, le pouvoir est à peu près uniforme, malgré des soi-disant alternances. On a l'impression que finalement...
Ça part bien, Jean. Ça part bien. Je sens qu'on va s'amuser tous les deux.
Je suis désolé, je vous ai pas appelé pour vous dire que j'ai bien dit que j'avais une défiance vis-à-vis des médias. Donc, je vais pas vous dire que des choses que je ne pense pas. C'est l'objet de votre émission, je pense. Et c'est vrai que dans l'information que vous distillez au quotidien, on a souvent l'impression que finalement, vous annoncez des informations qui ne sont pas encore arrivées, alors que les politiques, ils n'ont pas encore annoncé. Par exemple, tiens, pas plus tard qu'aujourd'hui, je suis juriste, je reçois dans mon cabinet, je reçois deux clients différents qui n'ont rien à voir, milieu social opposé, etc. Alors oui, qu'est-ce que vous pensez? On va être confiné, le président parle ce soir. Je regarde, je dis, ah bon, d'où vous avez cette information? Vous avez les médias qui l'ont dit. Et en fait, il ne parlera pas ce soir, bien évidemment. Et mes salariés m'ont fait la même réflexion ce matin, en me disant, il paraît que Macron va parler ce soir. Et en fait, c'est vrai que j'ai entendu ça dans les médias. On a entendu ça, voilà.
Bah, vous avez mal entendu, parce que tout le monde dit le contraire depuis 3 jours.
Bien sûr, on est bête, c'est sûr.
Mais Jean,
le problème, c'est que quand
Jean,
on n'est pas d'accord avec vous,
Jean,
on est ou bête ou complétiste. Mais c'est
Jean,
ça le problème.
Mais Jean, personne, je vous le répète depuis 2 jours, si vous écoutez tous les médias, pour le coup, ils disent...
Non, mais j'ai pas le temps de les écouter tous.
Bah, donc moi je les écoute. Personne n'a dit dans les médias que Emmanuel Macron allait parler ce mercredi. Personne.
Bah moi j'ai entendu à longueur de journée que Macron allait parler. Donc les gens dans leur inconscient collectif ont dit ben voilà, Macron va parler ce soir. Et en fait vous voyez un peu le pouvoir que vous avez sur les gens.
Je vous dis que c'est le contraire. Alors en revanche, ce qui a été écrit, c'est dimanche, le journal du dimanche, précisément attitré reconfinement imminent, et a émis l'hypothèse que Emmanuel Macron pourrait parler le mercredi. Hypothèse qui a été démentie immédiatement par l'Élysée dimanche. Et depuis dimanche, tous les journalistes sont sur cette ligne-là.
Ben moi je l'ai pas entendu en tout cas, mais bon, je demande qu'à vous croire.
Ben oui, mais comme vous n'écoutez pas, vous me dites que vous n'écoutez pas.
Ben je vais vous dire, en fait, je fais comme beaucoup de personnes autour de moi, j'écoute de moins en moins ce que vous racontez, parce que c'est vrai que on a vraiment l'impression souvent par vos propos que vous nous prenez pour des billes, et c'est ça le problème. Vous avez une façon d'oublier un versant de l'information, parce que je pense qu'idéologiquement il correspond pas à vos créneaux idéologiques.
Mais c'est quoi, par exemple, mon créneau idéologique? Ça vous m'intéresse. Mais alors, les créneaux idéologiques des journalistes, c'est quoi?
Les créneaux idéologiques, c'est des créneaux de gauche, principalement. Quand on pense.
Tous les journalistes sont de gauche.
Quand on pense. Non, mais pas tous, mais en général, c'est une pensée. C'est pas forcément politique. C'est la pensée, l'intellect qui est de gauche. Vous êtes envahi par des idées de la gauche. Regardez, France Télévisions donne quand même une prime à ces journalistes quand ils parlent de diversité, de racisme et de l'intégration des étrangers.
Et ça, c'est des idées de gauche.
Ben, je crois que c'est quand même grave. On n'a pas donné
le racisme,
prime pour
c'est une idée de gauche.
Non, oui, vous,
bah
la
oui,
gauche
non,
crée...
Non, sais, moi, je vous pose
non,
une
je
question.
Réponds, je vous réponds. La gauche crée le racisme, oui, parce qu'elle nous parle sans cesse de ça, en disant que les Français sont racistes, que les policiers sont racistes, etc. Vous essayez de faire croire qu'ils le sont, alors qu'ils ne le sont pas. Il n'y a qu'à voir la multiplicité des noms qu'on côtoie dans nos professions au quotidien. On voit bien que la France n'est pas raciste. Et vous instillez ça. Et en fait, vous donnez des primes. On vous force... Enfin, on n'a pas besoin de vous forcer beaucoup, à mon avis. On vous force à parler de ces sujets-là pour influencer l'opinion publique.
Bon, bah Jean, en fait, je vous propose de poursuivre cette passionnante conversation. Avec nous, Louis de Funès, 1983, vous pourrez en parler parce que ça pourra nous aérer tout à l'heure. Louis de Funès, vous avez un petit son avec Louis de Funès.
Je vous écoutais et...
C'était très bien.
C'est la grande vadrouille, ça. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Je précise que Jean est encore avec nous parce que Jean ne sera pas censuré, même s'il n'est pas d'accord avec les médias et les journalistes. Il a toute sa place pour parler, bien sûr. Laurent.
C'est la question du jour sur le site RTL.fr. Gardez-vous le moral, un énième conseil de défense aujourd'hui à l'Elysée. Redoutez-vous un troisième confinement. Il pourrait entraîner une perte d'activité entre 10 et 18% selon le ministère de l'économie. Chef d'entreprise, dans quel état d'esprit êtes-vous? 32-10. Vous avez été nombreux à réagir à l'agression de Yuri, 15 ans, par une dizaine d'individus à Paris. Pour les enquêteurs, le collégien n'était pas là par hasard. Il s'agit bien d'une rixe entre bandes rivales. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a lancé un appel hier à l'Assemblée nationale.
Bien sûr, c'est un sujet de police. Bien sûr, c'est un sujet de justice. Mais pourrions-nous aussi penser que c'est un sujet éducatif? La responsabilité des parents, qui aujourd'hui laissent peut-être des enfants de 13, de 14 et de 15 ans se taper à coups de barre de fer, à coups de tournevis. On peut tout accuser des institutions de la République. La République ne peut pas toujours faire le travail que doivent faire les parents.
Qu'en pensez-vous? Pointez-vous du doigt également la responsabilité des parents. 32-10. Faut-il mettre en place des quotas de femmes dans les instances dirigeantes des entreprises? C'est la demande du Haut Conseil à l'égalité hommes-femmes dans les conseils d'administration des entreprises du CAC 40. La loi Copé-Zimmermann a permis de passer de 20% de femmes en 2011 à 44% en 2020. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, était l'invitée de RTL hier matin.
Ah, je pense qu'il reste encore beaucoup à faire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Une déclaration vous fera sans doute réagir, celle de la ministre déléguée chargée de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher.
En tant que femme politique, j'assume de dire que je suis une femme quota. Si on n'avait pas cherché la parité au sein du gouvernement, je n'aurais pas été nommée au sein du gouvernement.
Des quotas de femmes dans les instances dirigeantes des entreprises, qu'en pensez-vous? Nous attendons vos appels dès maintenant au standard.
Nous continuons donc la discussion sur les médias. La confiance des Français envers les médias a légèrement remonté. D'après le baromètre annuel réalisé par Kantar pour le quotidien La Croix, la crédibilité se redresse. Quant à elle, légèrement, pour la deuxième année consécutive, après avoir touché un plus bas absolu en pleine crise des Gilets jaunes. Et on est avec Jean qui, alors je résume la position de Jean, les journalistes sont tous de gauche, mettent en avant plutôt des idées ou des valeurs qu'ils jugent de gauche ou des combats qu'ils jugent de gauche. Et il est extrêmement méfiant sur la réalité des infos qui sont distillées.
Je vais corriger ce que vous venez de dire. J'ai pas dit que les journalistes étaient tous de gauche. J'ai dit qu'ils avaient tous une idéologie de gauche. C'est pas pareil.
Mais c'est pas non plus ce que j'ai dit. J'ai pas dit que les journalistes sont tous de gauche. J'ai dit les thèmes qu'ils choisissent.
Non, vous avez dit que j'ai dit ça.
Non, c'est-à-dire que vous venez en direct de déformer ce que précisément je venais de dire.
Bon,
donc j'ai dit qu'il choisissait des thèmes. Bah oui, mais j'ai l'impression que vous comprenez peut-être pas toujours bien aussi, Jean. Parce que si
oui,
vous
je dois
me
être
faites...
un peu bête peut-être.
Non, pas du tout, mais si vous me faites des reproches, si vous me faites des reproches, moi je peux aussi vous en faire. Parce que si vous déformez mes propos, je vais pas être d'accord avec vous.
C'est peut-être le témoignage d'une extrême défiance, justement. Mais, c'est peut-être ça, vous voyez.
Mais cher Jean, il n'y a pas de souci, mais vous dites, et vous avez d'ailleurs peut-être raison, que les thèmes choisis, pensez-vous, sont plutôt des thèmes de gauche. Vous avez cité le
oui,
racisme.
Oui, je pense vraiment.
Alors moi, je ne vois pas en quoi le racisme est un thème de gauche, mais bon.
Mais parce que vous en faites une religion. Et le racisme, on n'entend que ça tout le temps. Vous saisissez le moindre problème qu'il peut y avoir avec une personne étrangère pour qualifier ça de racisme. Il ne faut pas voir du racisme partout. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si les Français étaient racistes, ça saurait. Ça saurait, grand Dieu. Regardez la variété des noms.
On parle que de ça en France.
Mais pas que de racisme. Dès qu'il y a un thème sur le genre, on y va. Alors à la limite, why not? Moi, je suis preneur, mais qu'on aille jusqu'au fond de la discussion.
Vous n'avez pas le sentiment que c'est minoritaire, par exemple, que lorsqu'on parle du genre, c'est des sujets qui effectivement sont évoqués parce qu'ils traduisent une réalité.
Oui, mais qui ne sont pas traités au fond. C'est ça,
c'est-à-dire,
mon souci.
C'est quoi pas traité au fond?
Ben, j'aimerais qu'on aille au fond du sujet,
mais
savoir quelle est la détermination du genre, quels sont les buts qui sont poursuivis avec le genre, d'où vient ce phénomène de genre, pourquoi, et l'analyser plus profondément, ça ne va jamais... Au fond, vous voyez, il y a une chose que j'aimerais savoir. J'en parlais à la personne que j'ai eu au téléphone tout à l'heure. Par exemple, sur le vaccin, qui est-ce qui va nous dire, un moment ou un autre, vous allez me dire, non, mais on nous a déjà dit, on a déjà invité. Non, mais des scientifiques contradictoires qui nous disent ce qu'il y a dans le vaccin. On lit dans les réseaux sociaux que le vaccin contre le virus corona est fait à base de tissus de fœtus avortés. Qu'on nous dise, non, c'est faux, c'est archi-faux. Moi, je ne demande pas mieux, mais je ne l'ai jamais entendu.
Mais, pardonnez-moi, monsieur Jean, mais vous écoutez, là encore, pas régulièrement nos émissions. Si vous
n'ai pas le temps, j'en suis désolé.
Bah oui, mais si vous écoutez pas les émissions, vous pouvez pas demander de ne pas les avoir. Vous ne pouvez pas regretter de ne pas
je
les
vous
avoir entendus.
Néanmoins, et ça j'ai jamais entendu. J'aimerais savoir ce qu'il y a dans le vaccin, par exemple, mais pas avec un scientifique que vous avez trouvé, parce que souvent quand on voit un scientifique, on nous le présente comme le scientifique vraiment que tout le monde doit connaître. On va sur Internet, ce personnage n'est pas connu.
Axel Kahn, en fait, c'est pas n'importe qui.
Vous en faites, oui, mais il y a pas que lui. Donc donnez-nous un scientifique qui soit confronté avec Axel Kahn. Bah, attendez, on peut accepter la diversité des opinions.
Oui, mais
Axel
enfin,
Kahn
si vous me dites que le vaccin est fait avec un fœtus, je veux dire.
Non, mais je vous demande, je vous demande c'est une information qu'on trouve.
Enfin, Jean, vous êtes assez grand pour savoir quand même savoir décoder tout seul une information. Vous pensez vraiment que le vaccin puisse être fait avec un fœtus ?
J'en sais rien, je pose la question, tout simplement.
Écoutez,
je pose la question parce que si vous allez consulter les réseaux sociaux et pas des moindres, c'est quelque chose qui sort. Voilà.
Oui,
et on aimerait savoir, on a besoin de savoir avec quoi on nous vaccine.
D'accord.
Mais vous voyez, vous avez une façon de ridiculiser la demande pour mieux l'évincer.
Mais je ne vous ridiculise pas, vous dites que votre source, c'est les réseaux sociaux. Si n'importe qui dit sur les réseaux sociaux que le vaccin est fait avec la soupe de potiron, je vais pas être obligé de démentir ça.
C'est pas n'importe qui, c'est des scientifiques qui s'appellent pas Axel Kahn, qui n'ont pas tous les micros. Il y a Fournier, notamment, qui avait été mis en psychiatrie suite à ses propos, et que vous n'avez jamais mentionné dans vos émissions.
S'il est interné, effectivement, c'est difficile de lui donner la parole.
Pourquoi il a été interné, c'est la question.
Mais vous pensez qu'il a été interné parce qu'il n'est pas dans la doxa médicale?
Je me pose la question, monsieur.
Vous vous posez beaucoup de questions, Jean.
Mais encore heureux, parce que c'est ce qui fait qu'on est un homme libre.
Et vous êtes libre,
monsieur Pro, c'est ce qui fait qu'on est un homme libre. Si on prend comme monnaie comptant tout ce que vous nous balancez au quotidien, on va être des esclaves. Et en fait, on a envie d'être une société libre. Voilà, c'est
écoutez,
tout.
En tout cas, vous avez la parole.
En tout cas, je vous dis, arrêtez surtout de stresser les gens. C'est ce qui ressort dans la rue en général, de tout le monde. Arrêtez de stresser les gens avec ce virus. Donnez-nous un peu autre chose. Arrêtez de compter les morts. Comptabilisez, comme vous disait l'auditrice tout à l'heure, mettez les morts qui ne sont pas morts directement du virus.
Mais je
c'est
suis d'accord avec vous,
mais vous
Jean.
Le dites jamais.
Mais dites pas ça, moi. Je passe mon temps à dire il y a mort avec le virus,
non,
mort avec le Covid.
Non, mais je ne parle pas de vous. Je parle in abstracto des médias en général.
Mais je vous répète ce que vous venez de dire. Ce que vous venez de dire juste, et c'est très délicat pour les médias, parce que les informations, on ne peut en l'espèce pas les vérifier. On nous dit telle personne est comptabilisée morte du Covid, et effectivement, il est possible qu'elle ait qu'elle ait contracté le Covid les 10 derniers jours de son existence, mais qu'elle était dans un stade de cancer terminal. Et elle sera comptabilisée.
Oui, mais faut le dire aux gens, parce que les gens, ils sont pris dans une telle
mais
peur.
Vous entendez ce que je vous dis?
Ils n'arrivent pas à raisonner.
Vous entendez ce que
je dis? C'est difficile, mais
c'est pas difficile, c'est impossible.
Vous dites qu'il faut dire aux gens que ces chiffres sont pas vérifiables comme étant la conséquence directe du corona.
Eh bien, chers amis, très souvent, sur le nombre de morts Covid, souvent, nous faisons cette petite remarque. Merci en tout cas.
Vous êtes moins anxiogène, vous permettez aux gens de continuer à travailler et puis pas être stressés, avoir des têtes de bovins délavés quand on les voit dans la rue avec des yeux délavés, tellement ils sont stressés et angoissés. Et ça, c'est dangereux parce qu'à terme, ils n'auront plus aucune liberté, les gens. Donc
merci,
il faut qu'ils aient
Jean.
La lumière dans le regard, la lumière critique, l'humanité,
merci,
qui
Jean.
Retrouve une forme d'humanité.
Je vous ai donné plus d'espace que n'importe quel auditeur depuis 13 heures. Ah ben non, vous n'avez pas à vous excuser. Au contraire, c'est intéressant d'avoir des gens qui ne pensent pas comme les autres. Donc c'est pour ça, c'est
heureux,
intéressant
ça triste,
de vous écouter. Merci Jean, la pub à tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Jean représentatif, c'est pour ça qu'on est resté avec lui un peu longtemps. Jean représentatif finalement de pas mal d'auditeurs aujourd'hui.
Et qui sont présents au 3210, également présents sur les réseaux sociaux. Et c'était important de pouvoir entendre Jean. Parlez-nous dans quelques minutes, si vous le voulez bien, de votre Louis de Funès. L'acteur nous a quitté le 27 janvier 1983. Oui, il y a tout juste 38 ans. Quel est votre film préféré?
Je croyais que c'était lui qui est rentré. C'est vous qui avez crié?
La biche.
Magnifique imitation, gendarme de Saint-Tropez. Fantomas peut-être?
Fantomas. Je t'en rêve.
La grande vadrouille, la folie des grandeurs, Rabbi Jacob, la soupe aux choux. Avez-vous eu la chance de rencontrer Louis de Funès? Venez témoigner dès maintenant dans l'émission.
Ah oui, ça serait bien si quelqu'un avait eu la chance de le rencontrer, Louis de Funès. C'est qu'il est mort au château de Clermont, dans la banlieue de Nantes, en 1983. où il s'était retiré. Nous sommes avec Pierre et on va changer de sujet puisqu'on va passer maintenant à cette affaire de mineurs dans la rue, les enfants de 13, 14, 15 ans qui sont parfois livrés à eux-mêmes et qui sont dans des bandes. Et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a dit que c'était peut-être aux parents de s'en occuper, que ce n'était pas qu'une affaire de police et de justice. Bonjour Pierre.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous.
Oui, alors moi je voulais vous apporter le témoignage de,
d'un prof. Vous êtes prof, c'est important de le dire, prof d'histoire, donc vous êtes au contact des jeunes.
Exactement, et c'est vrai que nous avons de plus en plus de parents qui viennent nous voir quand on les convoque à la suite de problèmes de comportement, sans parler de problèmes de travail, mais simplement de problèmes de comportement. Des parents qui viennent nous voir en nous disant « bah écoutez, je suis content que vous veniez, que vous m'ayez appelé parce qu'on n'y arrive plus à la maison. » Et est-ce que vous pouvez nous aider ? Alors que nous, on les appelle justement pour essayer d'avoir une réponse en face. Donc, alors c'est pas la majorité, hein, bien évidemment, encore une fois, mais il y a quand même de plus en plus de parents qui sont démunis vis-à-vis de la résistance de leurs enfants. Et moi, l'explication, si vous voulez, que j'ai, c'est que quand on discute avec eux, on se rend compte qu'ils ont un rapport extrêmement critique avec l'autorité qu'ils sont susceptibles de, dont ils sont susceptibles de faire preuve dans le cadre de l'éducation de leurs enfants. C'est-à-dire que pour beaucoup de parents, toute forme d'autorité est négative. Et il y a là un problème de démarrage, si j'ose dire, parce que si jamais il n'y a pas une autorité qui s'affirme, une autorité raisonnée, qui s'affirme au moment du plus jeune âge, l'enfant se construit sans limite, sans borne, et à l'école, ça devient strictement ingérable. Et mon épouse, qui travaille en contact, elle, plus avec des plus jeunes, me dit qu'il y a des gamins de 6, 7, 8 ans qui maintenant n'hésite plus à rentrer en confrontation avec les adultes, à leur répondre, etc. Et quand on le dit aux parents, les parents vous regardent en rigolant, en disant « Ah ben oui, on sait bien, c'est comme ça à la maison. »
Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, il y avait une émission que j'adorais, c'était Super Nanny. Je trouvais ça formidable, Super Nanny. Parce que la dame, elle arrivait, elle exerçait l'autorité. Le gosse, il avait généralement 1 an, 2 ans, hein. Il comprenait immédiatement l'autorité et il revenait dans les clous.
Ouais, ouais. Et si on ne le fait pas au début, après c'est très compliqué.
Mais,
hein.
Mais oui, mais tout le monde... c'est dur d'abord d'élever des enfants, ça faut le dire, hein, c'est dur, hein, c'est pas forcément facile.
Oui, j'en ai trois, je peux vous le dire, oui, c'est pas facile.
Donc c'est pas facile, d'exercer l'autorité c'est pas facile, c'est plus facile souvent de ne rien dire. Hein, aimer les enfants, c'est effectivement souvent les reprendre. Ça demande de l'énergie, ça demande du travail. Tu te bats en permanence. Il y a des parents, et on peut le comprendre, hélas. Parfois, ils sont seuls, qui tout simplement démissionnent. Il y a aussi ceux qui ne sont pas doués pour ça. Voilà, il y a plein de raisons. Mais ce qui m'intéresse, Pierre, c'est est-ce que ça change au fond ? Est-ce qu'il y a le même nombre d'enfants ou de parents dans chaque génération qui, au fond, ne savent pas forcément s'y prendre, ou est-ce que c'est aujourd'hui plus important que ça ne l'était il y a 50 ans ? Et ça, il n'y a pas de stats là-dessus.
Alors, moi, j'enseigne depuis 32 ans, très exactement, et je peux vous dire que depuis une dizaine d'années, c'est quand même quelque chose qui devient de plus en plus fréquent. Comme si on avait vraiment une génération de parents pour lesquels l'autorité était quelque chose de négatif et de critiquable, et qui n'osaient pas, ou qui ne savaient pas, parce que c'est peut-être ça aussi, qui ne savait pas ou qui n'osait pas faire un petit peu d'autorité.
J'ai l'impression d'entendre ça tout le temps. Depuis la nuit des temps, j'ai l'impression d'entendre qu'avant, l'autorité était plus forte. Même moi, quand j'avais 15 ans, j'entendais que mes parents avaient été élevés plus durement que je ne l'étais.
C'est vrai, j'ai entendu la même chose, puisqu'on a à peu près le même âge, donc j'ai entendu aussi la même chose de la part de mes parents. Mais franchement, on a aujourd'hui ça avec des parents qui vous disent...
Quand même qu'on a le même âge, hein, vous êtes de 64 ?
Je suis de l'extrême fin 63, donc des parents qui disent « Mais attendez, si jamais on rentre quand même maintenant en conflit avec, vous vous rendez compte, le climat à la maison, c'est plus gérable, etc. » Je leur réponds « Oui, mais si vous ne le faites pas, comment on s'en sort ?»
C'est évidemment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec des ados, il y a une période... entre 12 et 17, c'est parfois compliqué, mais tu peux pas démissionner, c'est ton...
Mais non, il faut pas.
Ben voilà, mais c'est dur, hein. Franchement, c'est dur. Ils ont quel âge, aux enfants ?
Alors, les miens, maintenant, ils sont grands. Hein. J'en ai un de 30 et j'ai des jumeaux de 25. Oui. Et qui n'ont pas été difficiles, mais voilà.
Ils n'ont pas été difficiles parce que de la manière dont vous parlez, voilà, les règles ont été... C'est toujours pareil,
ah,
oui. Hein, les enfants.
Exactement.
Alors, les enfants, ils sont comme les parents. Hein. Tu rentres, s'ils ont été un peu drivés, il n'y a pas de souci.
Eh oui, ils sont dans les clous maintenant.
Merci Pierre. Alors ça, questions que Greg Caranoni ne se pose pas encore, parce que le petit Pio,
oui.
À quel âge ?
2 ans.
Donc, a priori, il n'est pas encore en conflit avec vous ?
Non.
Bon, a priori. Ou alors, vous nous diriez que les jeunes générations entrent en conflit de plus en plus tôt.
Mais
vous allez voir, là, vous n'avez qu'un enfant.
Oui.
Et peut-être Pio aura-t-il un petit frère ou une petite sœur ?
Peut-être, je l'espère.
Bon, vous allez voir, parce que quand ça grandit... C'est parfois rude.
Mais rien qu'à cet âge-là, parfois, quand on doit lui dire non, ben moi, ça me fend le cœur.
Ah non, mais ça, vous pouvez pas. Ça, attendez, qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase ?
Ben quoi ?
Ben, vous lui rendez service en lui apprenant la frustration,
lui disant
non.
Quand même, mais c'est jamais très simple.
Mais je comprends pas cette phrase. Ça vous fend le cœur de dire non ?
Bien sûr. Ça me fend le cœur parce que j'ai l'impression de le peiner ou de faire quelque chose qui ne le satisfait pas. Mais
faites
il n'empêche que je le fais.
À vous, hein.
Non, mais je le fais.
Vous allez appeler. Vous allez appeler à 22h30. Hein.
Vous embrassez Caroline Dublanche au passage.
Je pense que là, faut que vous confiez à Caroline. 13h50.
Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Un autre témoignage peut-être sur ces jeunes et sur l'autorité parentale. Nous sommes avec Francis, bonjour, qui est enseignant également. C'est intéressant d'avoir des enseignants parce qu'ils sont en contact, évidemment, de ces jeunes gens.
Bonjour Pascal et bonjour à tous les auditeurs.
Bonjour, et je rappelle peut-être les propos du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui appelle à la responsabilité des parents, et là je le cite, qui aujourd'hui laisse peut-être des enfants de 13, 14, 15 ans se taper à coups de barre de fer, à coups de tournevis. La République ne peut pas toujours faire le travail que doivent faire les parents. Il fait référence évidemment à l'agression du jeune Youri sur la dalle de Beaugrenelle. Francis.
Bah, il faut bien qu'il y ait des responsables. Les parents, c'est une cible facile. Alors, je ne sais pas de quels parents parle Gérard Darmanin, parce que je me souviens d'une classe que j'avais étudiée il y a 4 ans pour leur expliquer ce qu'étaient les statistiques, et j'avais 84% de mémoire d'enfants qui ne vivaient plus avec leurs deux parents. C'est-à-dire qu'il y avait... Il y a un nombre de divorces qui n'existait pas il y a 50 ans. Votre auditeur précédent a tout dit. Je suis 100% d'accord avec tout ce qu'il a dit. Mais il y a 50 ans, il n'y avait pas le même nombre de divorces. Donc il y avait une autorité, en plus de toutes les autorités dont on parle, de celle du gendarme, du curé, du maire, etc., de l'instituteur. En plus de toutes ces autorités, il y avait quand même une présence familiale qui était très différente, parce que aujourd'hui, quand vous voulez sanctionner, par exemple, puisque j'ai aussi entendu un ministre nous expliquer qu'ils avaient peut-être mettre des pénalités financières aux familles qui n'arrivaient pas à responsabiliser leurs enfants, mais vous pénalisez qui ? Si la maman a la garde des enfants, vous pénalisez la maman, ou vous pénalisez le papa qui est reparti ailleurs, qui a construit un autre couple, etc. Donc, on est sur des débats qui sont un petit peu stériles, qui reviennent régulièrement. Moi, je crois que c'est lié à trois phénomènes. Le premier, je viens d'en parler, c'est le nombre de divorces. Le deuxième, c'est la virtualisation des sentiments. C'est-à-dire que, au travers des écrans, aujourd'hui, un enfant, des 2 ans, des 3 ans, il croit que on peut tuer, on peut revivre, ressusciter, on récupère des vies, on a des bonus de vie, on a, voilà. Et puis, forcément, il vaudrait mieux interroger un psychiatre ou un psychologue que moi sur ce sujet, mais forcément je pense, moi, qu'il y a des dégâts dans la tête des enfants, et quand on va mettre un coup de couteau, un coup de tournevis, un coup de batte de baseball à quelqu'un, on croit peut-être que on est sur un écran en train de taper, flinguer, puis que c'est pas grave de toute façon, parce que après il y aura game over et puis on recommencera. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, ça va être beaucoup plus large, un peu philosophique ou sociologique. Moi, je crois qu'on est sur des sociétés occidentales décadentes, avec moins de travail. Comment se faisait l'intégration il y a 50 ans ? Elle se faisait par la ferme, elle se faisait par l'usine, elle se faisait par la commune, avec les travaux de cantonniers. Aujourd'hui, vous n'avez plus de fermes, elles sont automatisées, elles font 500 hectares au lieu d'en faire 10 de 50. Vous n'avez plus d'usines, elles sont délocalisées ou automatisées. Et puis, les mairies n'embauchent plus comme elles embauchaient. Donc, les enfants qui n'ont pas le niveau, les enfants qui ne peuvent pas trouver une place dans cette société, qui n'ont plus l'environnement familial, qu'est-ce que vous voulez leur expliquer que c'est la faute à je sais pas qui, que Gérard Darmanin, ils savent même pas qui c'est Gérard Darmanin. Ces gens-là sont à des années-lumière d'une réalité du terrain que votre enseignant précédent connaît aussi bien que moi et voire mieux que moi. On est complètement à côté de la plaque. On est sur une société décadente où on croit qu'à partir du moment où on a un smartphone, on est plus intelligent qu'un type d'il y a 50 ans ou d'il y a 5 siècles.
Non, mais Francis, c'est vrai que c'est des discussions longues. D'abord, il est possible que vous ayez raison, mais c'est quoi la société décadente ? C'est d'apprendre qu'il y a 50 ans, il y avait l'inceste dans les familles et qu'on n'en parlait pas ? Que parfois le viol existait dans l'entreprise et qu'on n'en parlait pas ? Que la place des femmes était minime alors qu'aujourd'hui elle est majeure ? Donc vous voyez, de quel prisme on peut prendre et on peut juger la société aujourd'hui meilleure qu'elle n'était il y a 40 ans. C'est pour ça que c'est intéressant. En même temps, dans ce que vous dites, il y a des choses évidemment justes. Et effectivement, l'autorité était liée à la famille et qu'aujourd'hui, la famille a explosé. Donc, bien sûr. Mais c'est très difficile, en fait, d'avoir une seule grille de lecture. On marque une pause et puis peut-être, Francis, vous pourrez conclure parce qu'il va avoir le journal, le flash de Monsieur Bois.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
C'est dans une demi-heure à 14h30. Olivier Bois pour le Flash.
Et le Conseil de défense s'est tenu ce matin. Officiellement, le gouvernement attend la fin de la semaine, vous le savez, pour avoir un bilan définitif des deux premières semaines de couvre-feu à 18h. Mais écoutez Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, le ton commence un peu à changer.
Le couvre-feu a une efficacité aujourd'hui relative. Il a une efficacité et nous avons des données qui permettent de montrer qu'il ne freine pas suffisamment la circulation du virus pour être considéré comme pleinement efficace. Et nous avons travaillé ce matin sur différents scénarios qui peuvent être envisagés sur la base de la situation actuelle. Le président de la République a demandé au gouvernement des analyses complémentaires, épidémiologiques et scientifiques sur chacun de ces scénarios. Ces analyses lui seront transmises dans les heures et les jours qui viennent.
Voilà pour les précisions du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.
On se regarde tous les deux parce qu'on interprète de la même manière ce que vient de dire M. Gabriel Attal. Vous le sentez venir, le confinement ?
C'est vrai qu'il semble préparer un peu les esprits, mais attendons quand même la fin de la semaine pour le bilan
complet.
C'est ce que veut le gouvernement. Les restaurants Flunch, Pascal, sont en très grande difficulté à cause de la crise du Covid et demandent à être placés sous procédure de sauvegarde. L'enseigne envisage de céder une soixantaine de ses 227 restaurants en France. 1300 postes sont concernés. Et puis 36 ans après l'assassinat du petit Grégory, la justice à nouveau relance l'enquête à la demande des parents de Grégory. Elle autorise de nouvelles analyses sur 9 traces ADN jusque-là inconnues. Certaines lettres du corbeau vont également à nouveau être examinées. La météo de demain, de la pluie partout, sauf du Pays Basque à la Méditerranée. Et un retour de la douceur, 5 degrés à l'est, la minimale, partout ailleurs entre 8 et 13 degrés. 15 degrés, la maximale, à Perpignan.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Je précise que nous n'avons pas annoncé le confinement parce que Jean, notre auditeur, autrement va nous dire qu'on a annoncé le confinement. Nous avons interprété les phrases de M. Attal, mais c'est vrai que cette phrase est forte.
Elle est un peu différente, le ton est un peu différent des jours précédents.
Le ton est différent, ouais. Voilà, nous mesurons, nous sommes prudents, mais il y a une inclinaison manifestement dans la communication du gouvernement. Il est 14h02, on termine peut-être avec Francis, c'était intéressant ce que disait Francis, il disait société en décadente, et moi je lui ai répondu, ok, moi je veux bien tout entendre, mais j'ai cité l'inceste, et aujourd'hui on s'aperçoit que la parole est libérée, j'ai cité le viol, j'ai cité la place des femmes, etc., il y a 30 ou 40 ans, de ce point de vue-là, la société pour ces thèmes-là, ben elle est meilleure aujourd'hui.
Non.
Vous dites non aussi.
On peut dire ça parce qu'on médiatise les choses. Le viol, l'inceste, le meurtre existait il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, il y a 3000 ans. Le viol, l'inceste, le meurtre existera dans 2000 ans, dans 1000 ans et dans 100 ans. On en parlera, on mettra directement, on postera, on machin, on affichera. Mais c'est pas ça. La décadence dont je parlais était une décadence intellectuelle. C'est pas une décadence sur...
Ah, parce que vous trouvez que violer sa fille ou son fils, ou c'est pas une décadence intellectuelle?
Non, c'est inhérent à la nature humaine. C'est-à-dire que ça existait il y a 100 ans, non, mais ça existait il y a 1000 ans.
Non,
et
non,
ça
non,
existera
non,
dans
non,
100 ans et ça existera
non,
dans 1000 ans.
Non, 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 Francis. Non. Non, c'est pas naturel, bah, pas
si
assez inhérent.
Si vous pensez que l'homme va devenir bon, si vous croyez que l'homme va devenir bon...
Je pense qu'on peut progresser. Il y a des choses qui sont naturelles. Boire, c'est naturel. C'est inhérent, comme vous dites, c'est inhérent à la condition humaine. Il y a des choses qui peuvent être sociales. On peut imaginer qu'un travail d'information, qu'un travail également de répression, fait que le nombre d'incestes diminuera dans les sociétés, oui. Ça, je pense.
Ou se multipliera, parce qu'on l'aura médiatisé, je n'en sais rien.
Non,
vous
Francis,
non plus.
Là je ne suis pas. Là, je ne vous suis pas.
Moi, je pense que l'homme a des tares, que ces tares ne dépendent pas du fait qu'il existe des radios, des chaînes de télévision et des smartphones, que ces tares, elles sont inhérentes à la nature humaine.
Mais Francis, on progresse quand même, rassurez-moi, entre le 15e siècle, le 16e siècle, le 17e siècle, on progresse, on est plus intelligent, on est plus ouvert. La société aujourd'hui, regardez le rapport à l'homosexualité en 2020 en France et regardez ce qu'il était en 1920. Quand même, heureusement d'ailleurs, on est moins cruel, on est plus tolérant, il y a énormément de choses qui sont positives dans nos sociétés. Alors, mais on s'est un peu échappé là, hein, de l'autorité parentale.
Le débat de notre...
Elle est moins violente
discussion.
D'ailleurs, la société, qu'il y a un siècle.
Alors c'est justement pas la question sur laquelle on discute depuis un quart d'heure. On discute parce qu'il y a de la violence à coups de batte de baseball, de tournevis, etc. Et on dit aujourd'hui la société est moins violente. La société, elle est très très violente. Elle est violente économiquement.
Mais elle l'est moins qu'avant. Elle l'est moins qu'avant. En 1920, je vous rappelle que les ouvriers travaillaient du lundi au dimanche midi, que si vous étiez malade, il n'y avait pas de sécurité sociale, etc., etc. Il y a quand même des progrès. Non, il y a des progrès sociaux.
Ça, c'est du progrès social.
Oui.
On a des avancées sociales par le combat, la lutte, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais moi, je vous dis qu'il faut différencier ce que certains considèrent comme du progrès, à savoir la technologie, ce que certains considèrent comme du progrès, à savoir des avancées sociales, ce que certains considèrent comme de la régression, c'est-à-dire la réflexion intellectuelle. Où sont nos intellectuels aujourd'hui par rapport à ceux d'il y a 50 ans, les Deleuze, les Sartre, nos intellectuels aujourd'hui?
Les deux que vous avez cités, vous savez, je ne suis pas le plus grand fan des deux que vous venez de citer. Deleuze et Sartre, il y aurait beaucoup à dire. Mais en tout cas, Francis, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on continue la discussion avec Francisco dans une seconde, parce qu'on va resserrer peut-être sur notre thème, qui est l'autorité parentale, et ce que disait Gérald Darmanin. Est-ce que c'est de la faute des parents qui ne surveillent pas suffisamment leurs enfants et qui font que ces bandes, non pas se généralisent d'ailleurs, s'il y en a moins de bandes, mais c'est parfois un peu plus violent, nous dit-on.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Praud,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Alors Francis était avec nous, maintenant Francisco qui est dans l'Essonne. Bonjour Francisco.
Oui, bonjour.
Et merci d'être avec nous. Votre avis?
Alors mon avis, c'est que je suis entièrement d'accord avec Monsieur Darmanin. Pour la très bonne raison, c'est que déjà Youri, il a 16 ans, il n'a rien à faire dehors à 18h, parce qu'il me semble qu'il y a un couvre-feu. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, je me pose la question, où étaient les parents? Parce qu'il me semble qu'à 18h, tout le monde devait être à la maison, donc je pense que ses parents devaient être à la maison aussi. Et troisième chose, c'est que moi je dis que depuis 30 ou même plus, depuis 35 ans, les parents confondent méchamment éducation et instruction.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que l'éducation, c'est mes parents qui m'ont donné, de la même façon que j'essaie de l'inculquer à mes enfants et à ma petite fille. Et l'instruction, c'est mes profs qui me l'ont donné et qui l'ont donné à mes enfants. Et de plus en plus, j'ai l'impression que les parents envoient leurs enfants à l'école, vas-y. Et puis, il y a une démission des parents, ça j'en suis persuadé, et je l'affirme.
Mais comment ça se concrétise et comment vous le percevez?
Moi, je vais vous dire franchement, moi j'ai trois enfants, d'accord? Donc 30 ans, 27 ans et 19 ans. Je peux vous dire que alors ma fille 30 ans et mon fils de 27 ans, ils vivent leur vie, mais ils savent qu'à 18 ans, il faut être à la maison. Mon petit jeune de 19 ans, à 18 ans, il est à la maison. Donc, pas question d'aller dehors chasser les Pokémon ou quoi ou d'est. Donc, bah oui, parce que, bah oui, ça arrive.
Non, mais ceux qui ont 30 ans, ils sont plus chez vous.
Ah non, ils sont plus chez moi, mais oui. Ils respectent la loi.
Oui, bien
parce
sûr.
Parce que papa était derrière et maman pour leur donner l'éducation, et quand on leur dit, bah, 18h, tu es chez toi, bah, 18h, ils sont chez eux. Mmh. Ils sont pas en train de se taper sur la figure, sur la place de Grenelle, alors qu'on habite à 10 ou 15 kilomètres avec un trolleylis dans la poche. Mmh. Voilà, donc je reviens à ce que je disais, que font les parents? Où sont les parents?
Oui, mais ça, c'est moi qui vous pose la question. Où sont les parents? Qu'est-ce qui fait que dans la société aujourd'hui, les parents, selon vous, sont moins vigilants avec leurs enfants?
C'est une démission. Comme j'ai entendu votre collaborateur avec qui vous parliez tout à l'heure, qui disait, j'arrive pas à dire non à mon bébé. Comment ça, t'arrives pas à dire non?
Répondez, Grégory Caragnoni, vous êtes mis en cause.
Bonjour, Francisco. Non, je disais pas que j'arrivais pas à dire non.
Grégory est réalisateur de l'émission, hein.
Ah, enchanté.
Bonjour Francisco. En fait, je parviens parfaitement à lui dire non, mais intérieurement, ça me brise le cœur de le faire.
Mais il le sent. Mais il le sent, votre enfant. Il a raison, Francisco. Vous allez avoir des problèmes, vous.
Je on n'a jamais dire. Dit que c'était simple. On n'a jamais dit que c'était simple d'être parent.
Ben non, mais
c'est pour être parent.
En effet, c'est pas ce que je dis, mais je dis juste que ça me brise le cœur.
Greg va se faire engueuler.
Mais moi, je vous dis franchement, je préfère que me briser le cœur à moi-même que d'avoir mon fils dans le commun sur la place de Grenelle, parce que j'ai pas été foutu de dire à mon fils, non, tu n'iras pas, et non, et oui, tu restes ici, et je préfère avoir mal au cœur, moi, et je...
Francisco,
que d'avoir mon fils sur la place de Grenelle ou à l'hôpital.
Je suis complètement d'accord, Francisco, et en effet, moi, je continue à lui dire non.
Francisco, Dorothée vous répond, parce qu'elle est réflexologue, Dorothée, et elle n'est pas d'accord, elle dit, arrêtons de taper sur les parents. Dorothée, répondez à Francisco, bonjour.
Bonjour, bonjour Francisco, bonjour,
bonjour.
Pascal, bonjour tout le monde. Oui, moi je suis pas d'accord. La mode c'est devenu de toujours taper sur les parents. Tout est la faute des parents. Je ne dis pas que des parents ne démissionnent pas. Pour quelles raisons? Peut-être raison familiale, raison sociale, parce qu'ils en ont marre, parce qu'ils travaillent, parce que voilà. Ça existe. Je suis d'accord aussi, quand j'ai entendu avant, que l'école n'est pas un lieu pour éduquer les enfants, mais pour les instruire. Là, je suis entièrement d'accord. Mais alors là, oui, le gamin, 15 ans, il avait peut-être rien à faire dehors, après couvre-feu. Tout part de l'éducation, du respect et de la conscience. Mais quand vous voyez un enfant qui prend un train, qui prend un bus, qui se balade dans une ville, et il se balade, et qui se fait tabasser, ça aurait pu être le cas. Donc là, c'est la faute à qui? La faute au
parent? Mais c'est pas le cas. Mais là, c'est pas le cas. Excusez-moi, mais c'est pas le
non,
cas.
Mais ça aurait
il
pu
a été,
être
il a été
le
délibérément.
Cas.
Ça aurait pu, mais ce n'est pas le cas. Il a
après,
été délibérément
dites,
sur cette place.
Après, vous dites où sont les parents? Bah, peut-être que les parents travaillent.
Bah oui, mais 18 ans, de quoi maison?
Donc on met un GPS aux fesses de nos enfants, c'est
pas
ça?
Du tout.
On les
non, pas du tout. Pas du tout. Non, madame, je suis pas d'accord. Ça s'appelle la confiance. Je suis pas d'accord avec vous. On met pas un GPS et il est hors de question qu'il y a des applications, je sais que ça existe, où on peut mettre sur le portable pour savoir où est le gamin. Non. Moi, je parle de confiance. Le gamin, il avait rien à faire sur la place de la Grenelle. Par contre, mon fils, il voyage beaucoup parce que son école est très loin. Et effectivement, il prend le RER, il prend le métro. Ben, il s'est jamais fait agresser. Si, il s'est fait un petit peu chahuter. Mais voilà, c'est arrêté là. Mais il cherche pas les problèmes. Par contre, ce gamin, Yuri, qui a été sur la place de Grenelle, il allait bien chercher les problèmes. La preuve, c'est qu'il avait un tournevis dans la poche. Moi, mon fils, il ne se balade pas avec un tournevis dans la poche.
Il faut être prudent, parce que d'abord, il est...
Peut-être des choses comme ça.
Voilà,
il
faut être prudent, Francisco.
On n'est pas juge.
C'est ce qui a été dit ce matin sur RTL.
Oui, mais vous savez, tout ce qu'on ne faut pas écouter ni croire tout ce qu'on vous dit, monsieur. Parce que déjà, quand son monde...
Moi, RTL, c'est parole d'évangile.
Vous faites-vous votre opinion par vous-même. Moi, j'ai 8 enfants.
Vous les faites.
J'en ai un, une fois, qui s'est fait... Moi, j'en ai 8. Il y en a un qui s'est fait...
Vous avez 8 enfants, Dorothée?
Oui, j'ai 8 enfants et 5 petits-enfants. Oui. Mon fils, il s'est fait agresser en allant prendre le train, en rentrant.
Non, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est les parents, la responsabilité des parents, la démission des parents. Quand
et
je disais à Francisco...
Les parents ne sont pas toujours responsables. Non, il faut arrêter de toujours... Un enfant qui ne va pas à l'école, c'est la faute des parents. On veut lui couper le peu que les parents ont pour vivre en ce moment, pour certains, dans les cas de monoparentalité. On veut couper les allocations familiales, on veut couper les aides, on veut tout couper. Mais il est... Vous croyez que ça ne va pas faire un effet crescendo? Moi, je dis, les parents sont responsables s'ils lâchent. Si c'est tu fais ce que tu veux, tu rentres à l'heure que tu veux, tu manges à l'heure que tu veux. Là, oui, là, le parent a démissionné de son rôle. Mais après, voilà, là, le gamin, il était à plus de 18 heures dehors. D'accord, c'est pas normal, il y a un couvre-feu, on doit le respecter. Même, voilà, si ça se discute, on doit le respecter. il est en place. Mais de où les parents sont responsables? Les parents auraient dû
Les parents sont responsables de leurs enfants juridiquement jusqu'à 18 ans.
Non, mais c'est...
Il y en a, monsieur, ils ont des parents qui les serrent. L'enfant n'a pas le droit de regarder la télé, l'enfant n'a pas d'écran, l'enfant n'a pas de portable.
D'accord, mais là, vous allez dans les extrêmes. Vous allez dans... Moi, je parle d'une famille...
Parce que là, c'est pas un cas normal, extrême, vous avez vu l'état du gamin, c'est pas un cas extrême, là.
Mais il avait rien à faire là-bas, madame. Mettez-vous dans la tête, il avait rien à faire là-bas.
Ce gamin a mérité ce qui lui est arrivé, parce qu'il
n'a
pas
du tout.
Non, ne disons pas ça.
Bon, ce que je n'ai pas dit.
Dorothée
Francisco. Il n'avait rien à faire là-bas, c'est tout.
On va pas vous mettre d'accord.
D'accord, il avait rien à faire là-bas, je suis entièrement d'accord.
C'est tout,
mais c'est pas nécessairement de la faute des parents.
L'histoire de faute, c'est le mot responsabilité. Mais vous savez qu'avec les enfants, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. On est tous parents. Et effectivement, est-ce qu'on est responsable de nos enfants lorsqu'ils font des bêtises, lorsqu'ils ne se tiennent pas bien, lorsqu'ils sont irrespectueux? On a le sentiment de les avoir bien élevés, de s'être occupé d'eux. Et puis, on peut apprendre des choses qui nous surprennent. Je trouve qu'il faut être, pour le coup, assez humble là-dessus, parce que parfois, la vie peut réserver des surprises. Vous voyez ce que je veux dire, Francisco?
Entièrement d'accord.
On fait ce que je veux avec ce qu'on est au moment donné.
C'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de diplôme pour être papa. Non, il n'y a pas de diplôme. On passe pas un brevet pour être papa et maman. C'est vrai.
Non, mais c'est dur d'élever des enfants. C'est dur d'élever des enfants. Et ça, je le dis, c'est une banalité. C'est une conclusion. Mais franchement, et alors, ceux qui donnent des leçons en matière d'éducation d'enfants, voilà, ou ils n'ont pas d'enfants. Voilà, ou ils n'ont pas d'enfants, mais c'est très dur, simplement. Il y a quelques vérités. C'est vrai qu'un enfant, il faut sans doute s'en occuper beaucoup. Et aimer, c'est toujours un peu subjectif, mais s'en occuper, ça, c'est pas subjectif. Et s'en occuper, c'est quoi? Ben, c'est faire ses devoirs, c'est l'écouter, c'est l'emmener...
Et lui inculquer des valeurs.
Exactement, mais l'emmener au sport, etc. Et partager du temps avec lui. Partager de son temps.
Et pouvoir parler de tout aussi.
Exactement, vous savez...
Faut que l'enfant puisse parler à son père, à
exactement.
Sa mère, tous les domaines de la vie, sans avoir peur de... Voilà.
Mais parler de tout, honnêtement, moi, je parlais pas de tout avec mes parents, il y a des choses dont on parlait pas. Et il y a forcément des choses dont on parle pas, d'ailleurs. Quand on a 13, 14, 15 ans, on va pas raconter à sa mère ou à son père ses peines de cœur, forcément. Vous voyez,
peut-être pas ça, mais peut-être des choses autres.
Bah oui, non, mais parler de tout, c'est encore... Je sais pas s'il faut parler de tout, pour tout vous dire. J'en suis même pas sûr. Mais en revanche, passer du temps ensemble, oui, avec ses enfants, c'est pas mal de passer du temps ensemble.
Oui, mais quand un enfant peut se confier au père ou à la mère parce qu'il ne sait pas à qui parler, il a peur de se faire juger, je trouve que le père et la mère sont quand même là pour aussi être à l'écoute.
Vous avez aussi raison, Dorothée, mais comme toujours, moi j'adore cette phrase, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Voilà.
Ben oui, il n'y en a pas.
La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle et que c'est bien.
C'est mieux qu'on peut.
On est parfois un peu démunis avec nos enfants, forcément. Bon, ben merci, vrai. Dorothée, 8 enfants. Et alors, les 8 vont bien?
Les 8 vont très bien.
Écoutez, formidable. Francisco, les 3 aussi, ça fait 11 enfants à vous deux, Francisco.
Ah bah dis donc, bah, ça fait une équipe de foot.
ça c'est pour l'ami Laurent Tessier. Ça c'est pour le débrief. Merci Francisco, la pub.
Bonne journée. Au revoir.
Bon après-midi, au revoir.
Pascal Pro. Au revoir à tous.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
On va parler de Louis de Funès pour terminer, parce que nous célébrons aujourd'hui les 38 ans de son décès et nous sommes avec Daniel. Bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Pro.
Et il se trouve que vous avez un lien avec Louis de Funès.
Alors le lien, c'est que mon père, de 1976 jusqu'au décès de Monsieur de Funès le 27 janvier 1983, mon père était son menuisier.
Ça, c'est étonnant, effectivement.
Comme mon père n'avait pas d'ouvrier, nous étions deux garçons, j'étais l'aîné, donc souvent le mercredi ou le samedi, j'allais aider mon père au château. C'était pas ma passion, la menuiserie, mais j'allais avec mon père et j'aimais bien monsieur et madame de Funès.
Ah ben, racontez-nous comment il était.
Alors, monsieur de Funès était un petit peu très nerveux, hein, comme dans ses films, inquiet un petit peu toujours parce que sa propriété était assez grande quand même. Et Madame de Funès, très très gentille aussi avec moi. J'ai une petite anecdote. En 1977, j'avais à peine 15 ans, Madame de Funès me demande si je partais en vacances. Et je lui réponds que mon père étant artisan, il ne prenait pas de vacances, mais que moi, j'avais été inscrit pour faire un camp 3 semaines l'été. Elle me dit, il faudra que tu me dises ce qui te fera plaisir. Donc venant de Madame de Funès, quand vous n'avez pas 15 ans, ça vous surprend.
Et donc, dans les jours suivants, elle me dit, écoute, je te donne 200 francs, deux billets de 100 francs. En 1977, ça représentait une belle somme.
C'est énorme.
Et comme je n'avais pas de sac à dos, je suis allé avec mes parents acheter un sac à dos. Et les jours qui ont suivi, par politesse, j'ai ramené le sac à dos pour faire voir Madame de Funès. Et elle me dit, est-ce qu'il te reste de l'argent? J'ai dit, oui. Elle me dit, combien? Je lui dis, il me reste 20 francs. Elle m'a redonné un billet de 100 francs comme argent de poche. Voilà,
écoutez,
petite anecdote
ça, c'est...
de Madame de Funès.
Et Louis de Funès, vous avez une petite anecdote, un petit mot qu'il vous,
Vous disait Monsieur de Funès, une fois, nous étions à son poulailler pour monter des serrures et la voiture de mon père ne passait pas sous les branches. Donc Monsieur de Funès et moi-même, on levait les branches. Et comme ça tapait sur la voiture, il me dit comme ça, « Oh, c'est pas grave, c'est pas ma voiture. » Mais je me disais en moi-même, moi, c'est la voiture à mon père.
Et vous avez des photos?
Alors, mon fils avait 12 ans. En CM2, l'institutrice lui demande, demande aux élèves de faire un sujet sur des artistes. Et mon fils fait sur Louis de Funès. Il s'est fait un peu moquer de lui parce que les gens ne le croyaient pas. Et donc, moi, j'ai écrit à Madame de Funès, j'avais son adresse à Paris, je lui souhaitais la bonne année. Et en lui disant que mon grand regret, c'était de n'avoir jamais osé demander d'être pris en photo avec eux, car nous avions un grand respect pour ces gens-là.
Bien sûr.
Et donc, Madame de Funès m'a répondu en me disant que la lettre lui avait fait très plaisir. Elle m'a envoyé une photo du gendarme dédicacé de Saint-Tropez pour mon fils.
Mais vous voyez, c'est rigolo parce que l'époque est vraiment différente. Vous dites en 76-77, vous avez 15 ans. Et à ce moment-là, vous n'osez pas prendre une photo avec Louis de Funès. Alors qu'aujourd'hui, évidemment, avec les smartphones, les personnalités comme de Funès, vous auriez sans doute fait une photo avec lui. C'est très rigolo, ces petits détails qui signent une époque. Et effectivement, alors du coup, vous n'avez pas de photo.
Alors j'ai juste la photo dédicacée du gendarme de Saint-Tropez. Et il y a 10 ans, au décès de mon père... Monsieur Patrick et Olivier de Funès, ses fils, m'ont envoyé un mail de condoléances pour ma mère et pour nous. Et comme quoi, il était vraiment sincère, ce mail de condoléances.
Écoutez, c'est la classe.
Se rappelait
c'est la classe, la famille de Funès. Et bravo, si j'ose
dire. J'ai un livre dédicacé de Patrick et Julia, qui est la fille
bien sûr,
d'Olivier.
Qui est psychiatre, c'est ça?
Oui, voilà. Et alors Julia, elle a une quarantaine d'années, elle écrit des livres, et j'ai son premier livre, mais malheureusement, je ne l'ai jamais rencontrée pour le dédicacer. Mais j'ai souvenir d'elle quand elle avait 2-3 ans au château chez ses grands-parents.
Eh bien, merci beaucoup, Daniel. C'est l'heure du débrief avec Laurent Tessier.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
Et aujourd'hui, la consigne de Pascal pour vous tous, vous toutes au 3210.
Tapez-moi dessus, tapez sur nous, tapez, c'est de notre faute.
Oui, une question nous a agité ce midi.
Les médias, est-ce que vous nous croyez?
Faites-vous confiance aux médias, que nous reprochez-vous? Jean nous a contacté au 3210.
Et je trouve personnellement qu'il y a une trop grande collusion des médias et du pouvoir. Mais du pouvoir quel qu'il soit. Bon, remarquez, c'est pas compliqué. Depuis 30 ans, le pouvoir est à peu près uniforme malgré des soi-disant alternances. On a l'impression que finalement...
Ça part bien, Jean. Ça part bien. Je sens qu'on va s'amuser tous les deux.
Et l'ambiance devient un peu plus caliente entre vous, Pascal et Jean.
Le problème, c'est que quand on n'est pas d'accord avec vous,
Jean,
on est ou bête ou complétiste. C'est
Jean,
ça le problème. On a vraiment l'impression, souvent, par vos propos, que vous prenez pour des billes.
Des reproches sur les médias partagés par Benoît.
Ça fait maintenant un an que je ne regarde plus du tout la télévision. Alors peut-être que je vais devenir idiot ou abruti à force de ne pas regarder la télé et les journaux télévisés.
Je vous assure, non, on peut très bien vivre sans télé.
Et aussi Véronique.
C'est vrai que les médias traditionnels, je pense, sont moins neutres qu'avant.
Mais allez, Arnould nous donne un bon point.
Aujourd'hui, on est dans un monde de défiance. On ne croit plus personne. On ne croit plus en l'autorité, plus aux médias, plus aux politiques. Tout le monde nous ment. C'est la théorie du complot. Voilà, on est dans un système qui est quand même malsain, très malsain.
C'est le débat qui vous a donc animé principalement aujourd'hui. Un résumé de ces échanges, Pascal?
Jamais il ne faut éliminer les Véroniques. Ça, Véronique, il faut les laisser, les Véroniques. Même si aujourd'hui, elles sont un peu moins présentes dans la société française. Il y a moins de Véroniques qui naissent. Mais autrement, les Véroniques, il faut les garder. Il faut les choyer. Vous êtes d'accord?
Notre franc-parler, oui.
Et la culture a une place importante dans cette émission. Juste pour le plaisir, même si ce n'était pas aujourd'hui, parlez-nous, Pascal, dans une autre langue.
Perro russe et perra et persolem invictus duceres.
Ok.
Quel homme cultivé, ce Pascal
Pro. J'ai pas dit ça aujourd'hui, ça date de
c'est un autre jour, on retrouve assez bien. Oui. On retrouve des choses dans les archives, ça qui est formidable. Et je peux déjà vous annoncer, tiens, la question du jour, demain dans l'émission.
Vous le sentez venir, le confinement ?
Eh oui, à venir demain au 32-10. Et on adore aussi faire des maths dans l'émission.
Dorothée, 8 enfants, et alors les 8 vont bien ?
Les 8 vont très bien.
Eh bien, écoutez, formidable. Francisco, les 3 aussi, ça fait 11 enfants à vous deux, Francisco.
Ah bah dis donc, bah ça fait une équipe de foot.
Eh oui, 8 plus 3 égale 11. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. Ça vous a plu, Pascal ?
C'était très bien. C'était pas bien, c'était très bien. Quel est votre film préféré, vous, de Funès ?
La Grande Vadrouille. Un classique, vous allez dire.
Quel est celui
la Grande Vadrouille aussi, ouais.
Que vous pouvez regarder ?
Quel est le vôtre ?
Fantomas, je trouve ça formidable, mais surtout c'est la magie, quoi. Les 3 premiers quarts d'heure du grand restaurant sont formidables.
Quelle est votre meilleure imitation, Louis de Funès?
Moi?
Oui.
Comment ça, moi j'imite
aucune.
Pas Louis de
Funès. Aucune
imitation quand j'imite. Mais c'est un génie de Funès. La grande pas la grande vadrouille, la folie des grandeurs est formidable.
Ça c'est pour moi. Ça c'est pour le roi. Ça c'est pour moi. Ça c'est pour le roi.
C'est surtout pour un prochain débrief de Laurent, tout ça.
Magnifique. Rendez-vous demain. Hein.
Bon, Flavie Flamand, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.